La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 5 mars 2026. La littérature, l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique, l'art exprimant un idéal de beauté, est depuis un moment et par endroits l'allié de l'intelligence artificielle générative. Cette dernière change les habitudes dans bien des domaines. La création littéraire tend désormais et peu ou prou ses mains à l'intelligence artificielle générative. Littérature et intelligence artificielle, opportunités, mutations ou menaces sémiotiques, c'est le thème de ce numéro de votre émission La Vigue littéraire. Idrissou Zimé Yerima, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, est notre invité, maître de conférences en linguistique et communication. Il assure les fonctions du chef du département des sciences du langage et de la communication. Il a travaillé précédemment comme journaliste, consultant en communication et traducteur indépendant pendant une vingtaine d'années. Avant d'engager les échanges avec lui, nous allons suivre le cachet littéraire. C'est avec Christelle Abahi. Christelle, bonjour.
Bonjour.
La forme ?
Ça va.
Alors, qu'est-ce qu'on retient ?
Férus des lettres, je vous salue. Installez-vous confortablement et laissez la magie des mots vous envelopper. Bienvenue dans votre rendez-vous, le cachet littéraire. Ce bulletin s'ouvre par une nouvelle qui vient bouleverser l'actualité littéraire. La halle des Blancs-Manteaux, qui devait accueillir la 5e édition du Salon du livre africain de Paris, a été réquisitionnée pour une action humanitaire dans le cadre du plan Grand Froid. Une décision inattendue aux conséquences considérables qui menacent la tenue de cet événement majeur. Après des mois de préparation, une lourde incertitude plane désormais. Les organisateurs dénoncent une fragilisation du salon, désormais amputé d'une partie de sa programmation. Entre indignation et inquiétude, le monde littéraire africain retient son souffle. Rappelons que le Bénin est le pays invité d'honneur de cette édition. Pendant qu'à Paris, l'avenir du salon demeure incertain, au Bénin, la promotion de la lecture poursuit son chemin avec constance. Le mercredi 11 mars à 11h11, la médiathèque de l'Institut français du Bénin vous invite à faire une pause salutaire. 15 minutes pour lire, rêver et s'évader à l'occasion du quart d'heure de lecture initié par le Centre national du livre. Vous souhaitez organiser ce moment dans votre école ou votre entreprise? La médiathèque met à votre disposition livres, extraits et ressources adaptées. Le mot d'ordre est simple. Éteignez votre téléphone, allumez votre cerveau, lisez. Dans cette même dynamique, les éditions Bénin Livre vous donnent rendez-vous pour la présentation officielle de l'œuvre Amour, exploration spirituelle et humaine de Lucette Amedi, une plongée sensible au cœur des dimensions spirituelles et humaines du sentiment amoureux. Le mois de mars célèbre la femme. La beauté intellectuelle sera à l'honneur. 219 candidates participeront à la présélection du concours Miss Littérature Bénin, prévu le samedi 14 mars à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé-Aimévo à 14h. 219 passionnées de lecture, 219 ambassadrices des lettres, 219 intelligences prêtes à faire rayonner la culture béninoise. C'était votre bulletin du cachet littéraire. Merci pour votre fidèle écoute et surtout, restez passionnément littéraire.
Merci Christelle, merci beaucoup pour ce travail remarquable. Je l'avais annoncé à l'entame de l'émission, littérature et intelligence artificielle, opportunités, mutations ou menaces sémiotiques est le thème de ce numéro. Mais avant, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour nous intéresser à la littérature à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Et cet exercice, je le ferai avec le docteur Idrissou Zimeyerima, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il dirige également l'unité de recherche communication sémiotique et intelligence artificielle au sein du laboratoire des langues, lettres, culture et communication. Il est également écrivain. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de littérature à l'ère de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on exactement ? D'un simple outil technologique ou d'une transformation profonde des régimes de production du sens ?
D'abord, le thème même de l'émission. Parler s'il s'agit d'une mutation, dans quel sens ? En fait, il y a mutation. S'il y a mutation, c'est une mutation sémiotique. Parce que le mot sémiotique est sorti dans le thème de cette émission. Or, tout repose sur ça. Parce que quand on parle de sémiotique, on parle des signes. La sémiotique est l'étude des signes et des systèmes de signes. Donc, sans les signes, on ne peut pas communiquer. Et il y a plusieurs types de signes. Vous allez voir qu'il y a les symboles, les icônes, c'est-à-dire les images. Hein? Et vous allez voir que souvent, on dit que la communication est symbolique. Parce que pour communiquer, on se sert des signes. Et les symboles font partie des signes. C'est un type de signe. Alors, il y a mutation sémiotique plutôt. Ça veut dire quoi? La façon dont on produisait les textes change désormais. Avant, vous connaissez la structure. Il y a un auteur qui décide d'écrire. Et il a le texte qui produit, et ensuite il y a le destinataire, ou bien l'énonciataire si vous voulez. Mais aujourd'hui, il y a une médiation. Donc, et la médiation est assurée par l'intelligence artificielle. Première question, votre première question. Quand on parle de littérature et IA aujourd'hui, c'est qu'on pense à tous ces textes qui sont générés par l'IA ou bien à l'aide de l'IA. La nuance est importante. Quelqu'un peut demander à une application IA de lui générer un poème sans donner de précision. Et l'IA va générer le poème. Un autre peut dire un poème sur la pluie. L'IA va générer le poème sur la pluie. Mais est-ce lui l'auteur ? Voilà la question qui se pose. Mais un autre peut demander à l'IA de générer un poème sur la pluie et après il reprend le texte et il retravaille. Lui aussi, il a exploité l'IA. Donc, il s'est aidé par l'IA pour produire son texte. Donc, ça fait deux choses différentes. C'est pourquoi aujourd'hui, on pense que l'IA n'est pas un auteur, en fait, mais est considéré peut-être comme co-auteur et on parle de la coproduction. C'est ça.
L'intelligence artificielle peut-elle être considérée comme un nouvel auteur ou faut-il la penser comme un dispositif sémiotique inscrit dans une chaîne énonciative humaine ?
L'intelligence artificielle ne peut pas être considérée comme un auteur parce que la notion d'auteur nécessite l'intentionnalité. Il faut l'intention, il faut la subjectivité. Or, l'IA est une machine qui ne pense pas, qui ne produit pas de sens. L'IA produit du texte en tenant compte des algorithmes de ce qu'on lui demande de faire, mais ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. C'est la différence. Ouais.
Du point de vue des sciences du langage, que change l'IA dans notre rapport au texte, à l'écriture et à la signification?
L'IA change beaucoup. La façon de produire le texte avant, c'est-à-dire l'IA, aujourd'hui, on voit qu'on assiste à une masse importante de production de texte, hein, parce qu'on a cette facilité de générer désormais du texte dans n'importe quel domaine, que ce soit en poésie, en nouvelle, en roman, etc. Mais vous pouvez paramétrer le texte aujourd'hui, c'est-à-dire le texte que vous voulez produire. Donc, c'est quoi le paramétrage? Vous demandez par exemple que vous voulez un texte sur un texte pédagogique sur un sujet donné et l'IA va produire ça. Donc, on a cette possibilité rien qu'avec des questions qu'on appelle prompt de générer une masse importante de texte. Et c'est ça qui change aujourd'hui dans la production du texte. Mais ce qui change aussi, c'est le temps qu'on y met. Si avant, pour produire un texte de 5000 mots, moi, je devais prendre par exemple 5 heures, l'IA mettrait peut-être quelques secondes pour produire ce texte-là. Et celui qui a généré le test peut se remettre à le travailler. Alors, ce test, même s'il a travaillé, est-ce qu'il est le seul auteur? Est-ce qu'il en est l'auteur unique? Donc, cela pose des questions d'éthique, de transparence, etc. C'est pourquoi certains estiment que quand on a utilisé l'IA pour écrire un test, il faut reconnaître ça à la fin et dire que c'est à l'aide, mentionner que c'est avec l'IA qu'on a essayer de produire le texte.
Plutôt penser l'IA comme un nouvel acteur dans l'écosystème communicationnel, au même titre que l'auteur, le lecteur et l'éditeur?
Non, l'IA est un acteur, mais un acteur technique. Ouais, c'est un dispositif technique, un système sémiotique, donc qui vous permet de produire du texte. Dans l'ancien schéma, le schéma traditionnel de l'énonciation, il n'y a pas de machine. Il y a l'auteur, le texte produit, et il y a maintenant les lecteurs. Mais aujourd'hui, il y a même avant, on parle d'utilisateur, celui qui va demander à l'IA de produire un texte. Mais avant, il y a aussi les concepteurs, ceux qui ont conçu les modèles d'IA. Il y a les linguistes qui sont impliqués dans cette coproduction de texte. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de coproduction de texte. Et dans cette coproduction de texte, l'IA est un acteur important. Mais ne remplace pas l'homme, parce que l'intention se trouve au niveau de l'humain et non au niveau de la machine.
Lorsqu'un texte est généré par l'intelligence artificielle, où se situe l'intentionnalité, élément central de l'acte littéraire?
Oui, l'intentionnalité, c'est ce que je disais tantôt. L'intentionnalité se situe au niveau de l'humain, d'accord? C'est l'être humain, l'utilisateur, qui a l'intention d'exprimer quelque chose. Et comme je le disais aussi, l'IA ne produit pas du sens. Bon, il faut peut-être nuancer. L'IA ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas qu'elle est en train d'émettre un sens. Mais ce que l'IA produit a du sens. Voilà un peu la nuance. Donc, l'intentionnalité se trouve d'abord au niveau de l'humain. Après l'humain, il y a les programmeurs. Il y a ceux qui vont paramétrer. Quand je dis, par exemple, à l'IA, je donne un test comme le chat boit du et je m'arrête. Je demande à l'IA de compléter. L'IA va mettre du lait. Vous savez pourquoi? Parce que l'IA fait des calculs, calcule des probabilités à l'aide des corpus linguistiques qu'elle a emmagasinés. Et à partir de là, l'IA va voir le mot qui a plus de chances de sortir dans cette chaîne-là. Et va sortir le lait. Donc, le chat boit du lait. Voilà un peu comment les choses s'opèrent. Si vous générez du test, l'IA utilise de vastes données, des corpus très importants pour produire ce test-là. Mais il se peut qu'on ne trouve pas de traces de plagiat dedans. Ouais. Mais parfois, puis ça utilise les tests, même des auteurs qui ont été enregistrés. Il peut y avoir peut-être une phrase, deux phrases, un paragraphe, mais plagié, mais c'est un plagiat involontaire. On parle de plagiat involontaire. Ouais. Donc, si l'IA génère du texte et vous, sans rien changer, vous publiez, en réalité, vous n'êtes pas un auteur. Et moi, le concept que j'utilise pour ça, vous êtes un fauteur. Ouais. Donc, il y a une nuance. Donc, celui qui génère le texte, un poème par exemple, il met son nom. Donc, il n'est pas un auteur. C'est un fauteur. Donc, c'est une fraude. Et il y a des fraudes comme ça qui existent. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des applications qui permettent de détecter des textes écrits par l'IA. Mais il y a encore des faiblesses parce que parfois, vous pouvez produire votre texte sans IA et l'appareil va détecter un pourcentage élevé de taux d'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a, encore des problèmes qui se posent à ce niveau-là.
La littérature repose-t-elle essentiellement sur la subjectivité, l'expérience vécue et l'imaginaire humain ou peut-elle émerger d'un système algorithmique?
Bon, dans la vision traditionnelle, c'est d'abord l'intentionnalité, la subjectivité, etc. Mais l'IA a introduit une mutation. Aujourd'hui, les gens produisent des poèmes et on demande au public de choisir entre des poèmes générés par l'IA et des poèmes humains. Mais ils ne savent pas quel poème est généré par l'IA et quel poème est généré par l'humain. On voit que la plupart des enquêtés choisissent les poèmes générés par l'IA comme étant les poèmes les plus intéressants. Il y a une étude qui a été menée dans ce sens en Angleterre. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'IA produit effectivement de la littérature. Si on doit comprendre littérature comme production de l'écriture. Donc c'est ça un peu le problème. Et autre chose, on dit souvent que l'IA n'a pas de conscience, c'est une machine inconsciente, sans intention. Mais si on peut lire un texte produit par l'IA et éprouver de l'émotion, alors qu'on dit que l'IA n'a pas d'émotion, ça pose quand même un paradoxe. Il y a quand même un paradoxe là. Vous voyez? Donc, effectivement, ce que l'IA produit, sémétiquement parlant, peut avoir du sens, même si l'IA même ne sait pas ce que cela signifie.
Mesdames et messieurs, en continuant le feu des belles lettres, marquons une courte pause.
Who's them sideways?
en studio pour la suite de votre émission La Vigule littéraire sur la web radio Éduc-Action. Littérature et intelligence artificielle, opportunités, mutations ou menaces sémiotiques est le plat de résistance de ce numéro. Le docteur Idrissou Zimé Yerima est notre invité. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est nouvelliste, poète et essayiste. Il est d'ailleurs l'auteur de l'essai « Hier, dans les quotidiens, le mensonge de bonne foi des journalistes ». Alors docteur, peut-on parler d'écriture lorsque le producteur du test ne possède ni conscience, ni mémoire affective, ni historicité?
Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la pragmatique de l'usage. C'est-à-dire qu'on ne considère plus seulement l'auteur, le lecteur et le test, mais on considère tous les éléments qui ont contribué à la production du texte. Et ce sont des acteurs aussi. Donc, de ce point de vue, l'IA même est considérée comme co-auteur, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, on peut toujours parler de littérature, il n'y a aucun problème.
L'IA transforme-t-elle la figure de l'auteur telle que pensée depuis le structuralisme et la mort de l'auteur?
En fait, quand Barthes a écrit son article, son célèbre article « La mort de l'auteur » en 1967, il voulait signifier par là que le sens ne doit pas être recherché au niveau de l'auteur et de sa biographie. Et cela rejoint la critique grammaticienne, la critique immanente, qui veut qu'on recherche le sens du texte au niveau du texte et non à l'extérieur du texte. Et vous connaissez leur devise « Hors du texte, point de salut ». Donc, il fallait rester au niveau du texte pour trouver. Donc, c'est ce que Barthes disait à peu près. Mais aujourd'hui, l'auteur, ça dit avec Barthes déjà, on a vu que l'autorité de l'auteur a été destituée. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais on dit qu'il faut donner le pouvoir au lecteur. Et Barthes dit que la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Donc, dans son article, La mort de l'auteur, qui dit ça. Aujourd'hui, avec l'IA, on voit que l'IA aussi un peu comme la mort de l'auteur. Mais si l'auteur est plutôt distribué, hein, à plusieurs niveaux, l'auteur ne disparaît pas, mais son statut devient différent. Ouais. Il n'est plus seulement le tout-puissant, parce qu'on sait qu'il a un co-auteur qui est là. Il y a déjà une différence à ce niveau-là. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, quand Barthes dit la mort de l'auteur avec ce qu'on a aujourd'hui aussi, c'est vrai, les écrivains se sentent menacés, il faut le dire. Et aujourd'hui, le statut, les auteurs ont des problèmes. Pourquoi? Parce que vous prenez un nouvel auteur qui écrit, il y a déjà le soupçon qui est là. Est-ce qu'il a écrit en utilisant l'IA ou pas? Donc, c'est un problème, vous voyez. Alors, mais pour les auteurs qui ont déjà leur renommée assez établie, le problème ne se pose pas tellement. Mais vous commencez pas à écrire, les gens vont dire « Ah, c'est bien écrit, mais est-ce qu'il n'a pas utilisé l'IA ?» Donc, il y a comme un soupçon déjà qui plane au-dessus des auteurs. Comment faire? Qui m'a amené à présenter une communication en plénière à un colloque il y a deux ans de cela, sur la littérature à contrainte et l'IA. La littérature à contrainte, c'est des formes de littérature où on se fixe des contraintes, par exemple, écrire une nouvelle sans utiliser même une seule fois la lettre E, on appelle ça l'hypogramme, ou bien écrire des vers, que chaque vers un palindrome, c'est-à-dire un palindrome, c'est quoi? Donc, c'est un énoncé. Ça peut être un seul mot. Hein. Vous lisez ça de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche, vous obtenez la même chose comme le verbe rêver à l'infinitif quand vous lisez de l'autre côté. Parce qu'on estime aujourd'hui que l'IA n'arrive pas à faire certaines formes de littérature à contrainte. C'est ce que je voulais montrer. Je cherchais quel est ce domaine de littérature où, si l'auteur produit, il peut ne pas être soupçonné. Et j'ai découvert qu'au moins avec les lipogrammes, si quelqu'un écrit son lipogramme, un long lipogramme, mais si c'est un lipogramme, une seule phrase, l'IA peut faire ça. Donc, ça veut dire que l'IA ne pourra pas faire. Mon dernier ouvrage, c'est un long poème. Bon, l'ouvrage compte environ 100 pages. C'est un long poème en anglais sans la lettre E. Que l'IA ne peut pas faire ça. Dancing with coronavirus. On danse avec le coronavirus. Donc, au moins celui qui va lire ça aujourd'hui, il sait que ça, c'est pas avec l'IA. Mais peut-être demain, l'IA peut réussir à faire ça. Parce que l'IA, hein, se nourrit des données, etc. et évolue, apprend toujours. Je dis que l'IA a des gènes pour apprendre. Et ce que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui, demain, elle pourra peut-être le faire. Mais au moment où nous parlons là, l'IA ne peut pas produire un lipogramme de 100 pages. Censé.
Peut-on dire que l'IA opère dans le registre de la mimesis, imitation ou inaugure-t-elle une nouvelle forme de textualité?
C'est une textualité algorithmique parce que l'IA utilise des statistiques et imite. Imite comment? Parce que ce sont des tests, des vastes données là que l'IA regarde. Et quand vous lui posez une question, elle voit les réponses probables. Il y a peut-être un millier de réponses et dedans est choisi. L'IA fait des combinaisons. Pourquoi la notion de sémiotique est très importante? Parce qu'en sémiotique, il y a la notion de syntagme et la notion de paradigme. Le syntagme, c'est l'ensemble des éléments qui se combinent. L'IA peut prendre des éléments et les combiner. Et la notion de paradigme, le paradigme, c'est l'ensemble des éléments qui se substituent. Au lieu de dire, par exemple, je prends un mot Jean, dans un énoncé, je peux remplacer Jean par Pierre. C'est une substitution. Et l'ensemble des mots par lesquels on peut remplacer Jean, donc l'ensemble là, constitue, et même Jean lui-même constitue un paradigme. Donc voilà les deux opérations que l'IA utilise pour produire du texte, en regardant dans son corpus, en imitant ce que les auteurs ont déjà fait. Et le comble, c'est quand on demande par exemple à l'IA d'écrire un poème à la manière d'un auteur donné. Vous allez voir que l'IA va réussir le coup. Mon dernier article scientifique qui est sorti, c'est ça. J'ai demandé à l'IA d'écrire un poème comme Baudelaire. Et ça a réussi par écrire un sonnet. Et quand vous voyez, quand vous regardez les deux poèmes, si on ne vous dit pas que l'un a été écrit par l'IA, vous ne saurez pas.
Comment la sémiotique interprète-t-elle cette production textuelle sans sujet parlant?
On en dit, n'interprète rien parce que l'IA ne comprend rien. D'accord. L'IA ne comprend rien, mais l'IA, c'est une machine. Elle reçoit les données, les prompts. Vous posez des questions et en fonction de ces questions-là, elle va consulter les pages de données pour voir, retrouver, par exemple, les réponses qu'il faut. Et quand il s'agit de produits du test, parce qu'on parle d'IA générative en fait. Ce dont nous parlons ici, c'est l'IA générative qui permet de produire du contenu, que ce soit linguistique, iconique ou bien visuel, etc. Donc ça, c'est de ça que nous parlons. Donc l'IA va utiliser ce corpus-là, ces vastes données, pour vous répondre. C'est un peu ça.
Que dire pour conclure cette émission?
Alors, pour conclure l'entretien, les gens s'inquiètent. Mais le problème, ce n'est pas le fait que l'IA arrive à écrire. Donc, le problème même, serait de cesser de penser avec l'avènement de l'IA. Je donne un exemple. Vous pouvez écrire un texte de 5000 mots, d'accord? Et vous voulez faire une conclusion. Et vous décidez que pour votre conclusion, votre synthèse, vous allez prendre certains passages que vous allez résumer. Si vous mettez à faire ça vous-même, ça peut vous prendre 3 heures. Mais vous pouvez demander à l'IA de faire ça. L'IA va faire ça très bien, mais en quelques secondes. Qu'est-ce qui est perdu? Avant, quand vous perdez pour faire votre résumé, vous réfléchissez. Or, c'est cette réflexion-là qui vous nourrit en tant qu'intellectuel. Mais ça n'existe plus. Donc, vous ne réfléchissez plus. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui, même dans les universités. Quand, pour produire une revue de littérature, on va générer la revue de littérature grâce à l'IA. Donc, on ne réfléchit plus. Et quand l'être humain ne réfléchit pas, c'est la chose la plus grave. Ouais.
C'est tout pour ce numéro de votre émission La Vigue Littéraire. Nous nous sommes intéressés à la littérature et l'intelligence artificielle. Est-ce des opportunités, des mutations ou des menaces sémiotiques? Avant de mettre un terme à ce numéro, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain franco-belge Éric Emmanuel Smith. Je cite « La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse. » Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre « Un débat avec Eba » entre le lecteur et l'auteur. Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Franklin Bayon, Christelle Abahi et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Jidas Benyazin Awagbe a assuré la manipulation technique. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimet. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue Littéraire. Comme on le dit en fond et d'abord.
La Vigue Littéraire.
La Vigue Littéraire. La Vigue Littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue Littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.